أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين. Donc, le messager صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc on a dit, il y a les 13 attributs de Allah qui ont été répétés plusieurs fois dans le Coran, dans le Hadith, et qui sont obligatoires s'agissant de Dieu selon la raison. Et les savants, ils ont dit donc, en se basant sur cela, qu'il est un devoir d'ordre personnel de les connaître, c'est-à-dire de connaître leur sens. Donc ce n'est pas forcément d'apprendre les termes même par cœur, mais de connaître leur signification. Donc il y a les savants ash'arites, la croyance ash'arite c'est la croyance sunnite. Il y a les ash'arites, les grandes écoles dans la croyance, c'est ash'ari, maturidi. Donc c'est des gens qui expliquent la croyance du prophète, l'islam, avec des preuves. Donc ils expliquent que il y a ces attributs de qu'on appelle sifat al-ma'ani. Donc, c'est votre ma'an, ils ont cité la puissance, la vie, la volonté, la science, la parole, l'ouïe, la vue. Et l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari l'a cité, al-Baqa aussi, en tant qu'attribut de al-Ma'an, attribut de ma'ani. Et puis, à la différence des attributs, donc ils les ont classés ainsi, les autres ils ont classés, qu'on dit les attributs as-salbiya, en fait qui nie au sujet de Dieu tout simplement ce qui n'est pas digne de lui. L'exemption de début, l'unicité ça nie la multiplicité, le non-besoin ça nie le besoin, et la non-ressemblance aux créatures. Donc beaucoup de savants, ils ont cité al-Baqa, qu'on traduit par l'exemption de fin, dans cette catégorie-là. Bien que l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari l'a cité en temps avec les attributs de al-Ma'ani, sifat al-Ma'ani. Donc ils ont dit les savants, sifat al-Ma'ani, c'est les attributs qu'on dit qui existent réellement, qui peuvent attribuer si le voile est levé sur l'esclave. Alors que les autres, on a dit, c'est les attributs qui nient au sujet de Dieu ce qui n'est pas digne de lui. Et il y a un attribut, qu'ils l'ont classé tout seul, l'existence. Tout simplement pour confirmer que Dieu existe. Donc voilà, est-ce que c'est clair jusqu'ici pour ce data-là? Donc, on l'a cité l'autre fois. Donc la règle, c'est que tous les attributs de Dieu ne changent pas ne changent pas et n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Donc ils ont rajouté l'école des Maturidites d'autres attributs. Donc ces attributs-là que eux ils ont rajoutés, les Ash'arites, ils disent bon, ça rentre dans l'attribut de la puissance. Parce que les autres, certains savants, ils ont dit le fait que Dieu donne la vie, le fait que Dieu donne la mort, le fait que Dieu donne la subsistance, etc. Ils ont compté ça comme attribut, les Maturidites. Alors que les Ash'ari, ils ont dit Dieu donne la vie, la mort, la subsistance par sa puissance. Donc vous voyez quelques divergences en fait comme ça, mais ils ne divergent pas sur les fondements, à savoir que Dieu ne change pas, c'est pas un corps, n'a pas de début, n'a pas de fin, ça, il n'y a aucune divergence que ce soit Ash'arite ou Maturidite. Il y a certaines nuances, comme on a dit, exemple qu'on a dit. Donc c'est cité, par exemple, dans l'ouvrage très célèbre au Maghreb, Ibn 'Ashr. au début du livre de Mu'ajjal. L'existence, al-wujud, sache que Allah te fasse miséricorde, Allah Ta'ala existe éternellement, sans début, éternellement, sans fin. Son existence, Ta'ala, n'a pas lieu par l'acte de faire exister de quelqu'un qui fait exister. Donc l'existence de Allah n'a pas, ce n'est pas par le fait de faire exister d'un autre. Le fait que Dieu existe, qu'on dit mawjoud, c'est-à-dire le contraire de celui qui n'existe pas. Donc là, le cheikh, que Allah lui fasse miséricorde, il réplique à certains qui vont exagérer. Donc il se trouve que certaines personnes ont désapprouvé l'expression Allah mawjoud, qui veut dire Allah est existant. Parce que mawjoud suit la forme grammaticale maf'oul. La réponse, c'est que la forme maf'oul peut être employée pour qu'il ne suivit pas l'action d'autrui, tout comme on dit Allahu ma'boud. Et Allah est adoré. Or, ceux-là ont cru qu'ils avaient un mot à dire dans la science de la langue arabe, mais ils ne sont pas comme ils ont pensé l'être. Donc, les gens, ils font de l'exagération. L'islam est juste milieu, c'est-à-dire suivre des règles. Donc, des gens, soi-disant, ils ont répliqué, donc ils ont dit non, on ne dit pas mawjoud, parce que mawjoud, c'est. Parce que vous savez, en arabe, il y a des déclinaisons, en fait, de la forme mafoul. Généralement, c'est utilisé pour mafoul, celui qui subit l'action d'autrui. Mais c'est utilisé aussi pour celui qui ne subit pas l'action d'autrui. Comme on dit, Dieu est ma'boud, Allah est ma'boud, c'est-à-dire Allah est adoré. Donc, leur remarque n'est pas prise en compte parce que ça ne suit pas les règles de la langue arabe. Et puis, le cheikh, il rajoute, il donne la preuve d'un grand linguiste très connu qui s'appelle, Az-Zabi, qui fait le commentaire d'un autre livre très connu, dans le commentateur de Qamus. Qamus, c'est un livre très connu dans la langue arabe, écrit par Fayrouz Abadi. Az-Zabidi, dans son livre Sharh al-Ihya, a dit ce qui suit. Donc, ce qui suit, Al-Bari, celui qui crée Ta'ala existant, mawjoud. Il est donc valable selon la raison qu'il soit vu. Donc, au passage, bien sûr, ça réplique au Mu'tazila qui nie le fait qu'on voit Dieu. Là, en fait, il voulait dire que eux aussi, les Mu'tazila, dans une autre secte, ils disent non, mais. Bon, ils disent une partie qui est vraie et une partie qui est fausse. Ils disent Dieu existe en endroit. Et donc, c'est pas la partie qui est, ça c'est vrai, mais ils disent donc c'est pas valable qu'il soit vu parce que si celui qui est vu, forcément, est dans un endroit. C'est faux. Alors, ils disent les savants, donc non, Dieu, on le voit parce qu'il existe. Tout ce qui existe, il est valable qu'il soit vu. C'est pas la condition d'être vu, d'être dans un endroit, mais c'est la condition de l'existence. Donc, eux aussi, ils ne sont pas suivis les règles, ils sont égarés, ils ont nié le fait que Dieu. Donc, on voit, Mu'taz, il a pareil, mais nie, et ceux qui assimilent Dieu à ses créatures, ils attribuent à Dieu l'espace, le temps, la quantité. Les sunnites, c'est le juste milieu. Bon, on ne nie pas que Dieu est vu, mais il est vu sans endroit et sans direction, comme on dit les grands savants de l'islam. Donc là, c'était dans le contexte de la réplique à ces gens-là. Mais il dit que Dieu est mawjoud. Alors, donc c'est des savants de la langue. Ils emploient ce terme-là. Donc c'est valable qu'on l'emploie. Al-Fayoumi, aussi linguiste très célèbre, auteur de Al-Misbah, Al-Misbah al-Munir. Littéralement, c'est la lampe qui éclaire, c'est un livre de langue. Il a dit l'existant, al-mawjoud, c'est l'opposé de l'inexistant, al-ma'dou. Il dit donc tout simplement. Ce n'est pas forcément qu'il a subi l'acte de quelqu'un, mais al-mawjoud, c'est l'opposé de ce qui n'existe pas. Donc, l'exemption de début al-qidam, est obligatoire selon la raison s'agissant d'Allah dans le sens de l'existence de toute éternité, et non dans le sens de l'antériorité de l'époque du temps. Donc les termes al-qadim et azali, lorsqu'ils sont employés au sujet d'Allah, c'est dans le sens qu'il n'a pas de début à son existence. On dit donc Allah est azali, exempt de début. Allah est qadim, exempt de début lorsqu'ils sont employés donc au sujet de Dieu, ça veut dire qu'il n'a pas de début. Et donc ils sont employés aussi pour les créatures, ces termes-là, dans le sens de donc l'antériorité du temps, de l'époque et du temps. Allah Ta'ala dit à propos de la lune, حتى عاد كالعرجون القديم, ce qui signifie jusqu'à ce qu'il devienne comme un rachis de palme ancienne. En fait, il parle de, quand la lune, donc elle descend. Et l'auteur de Al-Qamous a dit, le grand linguiste, il a dit, les deux pyramides sont deux constructions anciennes, azaliyani en Égypte. Il dit binaani azaliyani fi Misr. Il employe le terme azali. Le terme azali, c'est, ça désigne aussi l'intériorité de l'époque pour les créatures. Donc, la règle commençait pour l'interprétation, comme on a vu l'autre fois, etc. Donc, toujours être conforme aux règles de la religion, aux règles de la langue et aux règles de la raison. Donc, c'est facile pour les savants. Donc. C'est pas inventer des remarques comme ça, sans preuve. Quant à la preuve rationnelle de son existence de toute éternité, Ta'ala, c'est que s'il n'était pas exempt des débuts, cela l'impliquerait le fait qu'il soit entré en existence. Il serait alors tributaire de qui l'aurait fait entrer en existence. Ceci entraînerait le cycle ou l'enchaînement sans début, et tous les deux sont impossibles selon la raison. Il est donc confirmé que le fait que Allah entre en, confirmé que le fait que Allah donc il est donc confirmé que le fait que donc qu'il est impossible donc l'entrée en existence s'agissant de Dieu. Donc, c'est plus clair de dire comme ça. Donc, l'exemption de... Voilà, c'est ça. Donc, il est donc confirmé que le fait que Allah donc, entre en existence, c'est impossible. Voilà. Et son exemption de début est ainsi confirmée. Donc, bien sûr, vous connaissez donc, la règle, donc la preuve rationnelle que Dieu n'a pas de début. Donc, Dieu ne dépend pas du temps, il existe avant l'espace de temps, donc il n'a pas de début. Parce que s'il serait... S'il serait entré en existence, il aurait eu besoin de qui le fait entrer en existence. Et ça, la raison ne l'accepte pas. La raison n'accepte pas d'une qu'une créature se crée elle-même, parce qu'elle n'existait pas, elle ne peut pas vouloir son existence alors qu'elle n'existait pas. C'est illogique. Et de deux, ben, c'est impossible que des créatures se créent donc ainsi de suite, sans fin dans le passé. Parce que cela amènerait à dire que la créature présente dépend de l'entrée en existence de ce qui n'a pas de début dans le passé. Donc ça dépend de quelque chose qui ne s'arrête pas dans le passé, donc ce qui ne peut pas exister. Comme de dire, si je te donne un euro, que si je t'aurais donné avant un euro. Et je t'en aurais donné avant que je te l'avais donné avant. C'est-à-dire au final, bah, tu ne l'auras pas un euro parce que ça dépend de quelque chose qui n'a pas commencé. Donc pareil, dire que les créatures s'enchaînent indéfiniment, donc qu'elles sont soi-disant créées par d'autres avant elles, qui avant elles, sans fin, donc c'est conditionner l'existence de ces créatures présentes sur quelque chose qui ne commence pas dans le passé, ou qui ne s'arrête pas. Et donc là, aussi, la raison ne l'accepte pas. La raison n'accepte qu'il y a un seul être qui n'a pas de début, qui donne le début à toute chose. Donc il y a la raison, elle accepte que ça. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la preuve rationnelle. Qu'il est impossible, au sujet de Dieu, le début. Donc celui qui dit qu'il y a des créatures qui n'ont pas de début, c'est de la mécréance. Certains, ils se sont égarés, ils ont prétendu cela. Et ça, c'est l'avis des philosophes. Des gens, ils ont suivi les philosophes, ils sont égarés. des gens ils suivent avec les mots des gens, mais ils ne savent pas que c'est des gens qui ont dit l'égarement. Donc il y a d'autres gens aussi qui étaient gourdous aussi, qui ont dit cela. C'est des gens célèbres, mais ils ont suivi la vie des philosophes, ils sont devenus des mécréants. Parce que prétendre que des créatures n'ont pas de début, bah, c'est de la mécréance. C'est nier le fait que Dieu a créé ces créatures. Donc qu'est-ce qui accepte la raison? Que toutes les créatures, c'est Dieu qui les a créées et Dieu, lui, n'a pas de début à son existence. L'exemption de faim. Donc l'exemption de faim, al-baqa. L'exemption de faim est obligatoire selon la raison s'agissant de Allah, dans le sens qu'il ne peut pas lui advenir d'anéantissement. En effet, du fait que l'obligation de son exemption de début est confirmée selon la raison, l'exemption de faim est donc obligatoire le concernant. En effet, s'il lui était possible l'anéantissement, l'exemption de début serait exclue à son sujet. Il est donc, tabaraka wa ta'ala, celui qui est exempt de faim de par sa réalité. Rien hormis lui n'est exempt de faim de par sa réalité. Quant au paradis et l'enfer, donc Dieu, son existence est obligatoire. Le seul être qui a l'existence obligatoire, c'est Dieu. Donc c'est impossible, le fait que son existence est obligatoire, c'est impossible pour lui l'anéantissement. Donc forcément, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. S'il lui avait, lui arrivait, lui, si il était valable, si lui serait possible la fin, il serait plus obligatoire, il serait possible. Donc il serait une créature. Donc vu que Dieu, son existence est obligatoire selon la raison, forcément c'est impossible à son sujet la fin. Et bien sûr, Dieu n'a pas de fin par lui-même. Alors que donc nul n'est associé à Dieu dans sa non-fin. Alors le paradis et l'enfer sont ils ont un début. Dieu a voulu pour eux la non-fin. Donc rationnellement, il est possible donc que le paradis et l'enfer s'anéantissent, mais Dieu a voulu pour eux la non-fin. Donc c'est impossible qu'ils s'anéantissent. Mais Dieu, c'est-à-dire du point de vue que c'est Dieu qui a voulu pour eux la non-fin. Mais du point de vue de leur réalité de créature. Créature, il lui est possible la fin. Mais du point de vue que Dieu a voulu pour eux la non-fin, donc elles n'ont pas de fin du fait que Dieu a voulu pour eux la non-fin. Mais elles n'ont pas une non-fin propre à eux. C'est du fait que Dieu a voulu pour eux la non-fin. Ça veut dire que Dieu crée des instants sans fin. Paradis ou en enfer, tout simplement. En fait, chaque instant est créé par Dieu, est voulu par Dieu. Donc, quant au paradis et l'enfer, leur exemption de fin n'est donc pas propre à leur réalité, mais parce qu'Allah leur a voulu à tous deux l'éternité sans fin. L'anéantissement est donc possible selon la raison pour le paradis du simple point de vue de sa réalité. Et de même, l'anéantissement est possible selon la raison pour l'enfer du simple point de vue de sa réalité. Voilà, donc vous voyez, donc la non-fin pour eux, ce n'est pas du point de vue de la réalité, mais du point de vue que Dieu a voulu pour eux la non-fin. Parce que c'est impossible qu'il arrive autre que ce que Dieu a décrété. D'accord? Donc, bien sûr, contredire ce qui est. Confirmé dans le Coran et le Hadith, la non-fin pour le paradis et l'enfer, bien sûr, c'est démentir la religion, ce qui mène à la mécréance. L'ouïe, as-sama. Donc, c'est un attribut exempt de début, immuablement propre à Allah. Donc, tous ces attributs sont propres à lui, n'ont pas de début, n'ont pas de fin, ne changent pas. Il entend les sons par une ouïe exempt de début, exempt de fin, qui n'est pas telle que notre ouïe, qui n'est pas par le biais d'une oreille ni d'un tympan. Aucune chose audible n'échappe à son ouïe ta'ala, même si elle nous est dissimulée à nous et lointaine de nous. Tout comme il sait son cœur quant à la preuve de l'obligation de l'ouïe s'agissant de lui, selon la raison, c'est que s'il n'avait pas pour attribut l'ouïe, il aurait pour attribut la surdité. Or, ceci est une imperfection s'agissant de Allah ta'ala. Et l'imperfection lui est impossible. Par conséquent, si quelqu'un dit qu'il entend à l'aide d'une oreille, il aura fait preuve des religions. Des religions et il aura mécru. Donc, et religion, c'est en fait la mécréance en fait. Et religion. C'est pas utilisé souvent, mais en fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la religion. Donc en arabe, ilhad, voilà. Qui renie en fait ce qui est confirmé dans la religion. Irréligion. Donc c'est le, on va dire, le préfixe pour nier. Pour dire le contraire. Donc la vue, donc bien sûr il y a le verset, wa huwa as-sami'u al-basir, il est celui qui entend et qui voit, qui signifie. Donc la vue est obligatoire selon la raison, s'agissant d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire la vision. Il voit donc d'une vision exempte de début, exempte de fin, toutes les choses visibles. Il se voit lui-même sans rétine ni organe sensoriel, car les organes sensoriels font partie des attributs des créatures. La preuve que la vue est confirmée s'agissant de lui, donc la preuve que la vue est confirmée s'agissant de lui, selon la raison, c'est que s'il ne voyait pas, il serait aveugle. Or, la cécité est une imperfection s'agissant d'Allah Ta'ala et l'imperfection lui est impossible. Quant à la preuve de l'ouïe de la vue déduite à partir des textes, elle tient dans les ayahs et les hadiths, par exemple sa parole Ta'ala, « Wa huwa as-sami'u al-basir » qui signifie « Il est celui qui entend et qui voit ». Il est celui qui entend et qui voit. Sa parole sallallahu alayhi wa sallam, dans l'énumération des noms parfaits de Allah, As-Sami' al-Basir, qui signifie celui qui entend, celui qui voit. Ceci figure dans un hadith rapporté par Tirmidhi, Ibn Hibban l'a jugé sahih. Donc il entend, il voit. La parole, al-kalam, la parole est un attribut exempt de début, exempt de fin, par lequel il parle, il ordonne, interdit, promet et menace. Sa parole n'est pas comme la parole d'autre que lui. Elle est exempt de début, car Allah lui-même est exempt de début, et elle n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. Sa parole n'est pas un son produit par l'écoulement de l'air ou par le choc de corps entre eux, ni des lettres qui sont prononcées en fermant les lèvres ou en bougeant une langue. Donc la parole de Dieu ne ressemble pas à la parole des créatures. Nous croyons fermement que Moussa a entendu la parole de Allah, exempt de début, sans lettre ni son, tout comme les croyants verront Allah Ta'ala sans qu'il soit une substance ou une caractéristique de substance. En effet, la raison ne juge pas impossible l'audition de ce qui n'est ni lettre ni son. Sa parole Ta'ala qui lui est propre n'est pas une parole composée de lettres se succédant les uns aux autres comme notre parole. Si l'un d'entre nous récite la parole de Allah, sa récitation est faite de lettres et de son. Elle n'est pas exempte de début. Donc là, déjà, ça rentre dans les deux sens. Vous voyez, des fois, dans les savants, comme ici, il peut citer la parole dans les deux sens, dans un même texte. C'est au moins dans les traités, il cite comme ça. Il cite l'attribut de parole dans le sens, enfin, la parole dans le sens de l'attribut. Il cite la suite, donc la parole dans le sens de l'expression de l'attribut de parole de Dieu. Donc ils vont dire, les savants, la parole de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin, nous lisons dans les mushaf, nous mémorisons dans le cœur. Donc là, il a cité les deux sens. La tribu de parole de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Ça parle, quand il dit la parole de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin, ça veut dire, c'est l'attribut de parole de Dieu. Quand il dit nous récitons, c'est-à-dire on parle de l'expression. Mais dans le décal, on peut appeler parole de Dieu. C'est valable. Dans un sens, c'est l'attribut de parole de Dieu. Dans un autre, c'est les termes révélés qui désignent l'attribut de parole de Dieu, qui est une expression de l'attribut de parole de Dieu. Comme on dit, nous adorons Allah et on dit j'ai écrit sur le tableau Allah. Quand tu dis j'ai écrit Allah, ça veut dire que tu as écrit une expression qui désigne le Créateur. Ce n'est pas Allah lui-même. De même, on dit j'ai lu la parole de Dieu. Dans le Mus'haf, ça veut dire l'expression de l'attribut de parole de Dieu. Donc, l'expression de l'attribut de parole de Dieu, dans le Coran, dans le Mus'haf, dans la vraie Torah, dans le vrai évangile, donc ça peut être en arabe, en hébreu, en araméen, qui désigne, qui sont une expression de l'attribut de parole de Dieu. Et l'attribut n'est pas en arabe, ni en araméen, ni en hébreu. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc, Moussa, il a entendu la parole de Dieu sans que ce soit des sons ni des lettres qui arrivent dans l'oreille. C'est-à-dire, il a compris de la parole de Dieu. Tout comme tous les humains, Dieu leur parle dans l'au-delà. Il leur fait rendre des comptes à tous en un instant. Ils comprennent l'interrogatoire de ce qu'ils ont fait, des bienfaits que Dieu leur a accordés. Donc, d'autre part, le nom Coran et les autres noms qui désignent les livres révélés ont deux emplois. Donc là, on répète ce qu'on vient de dire. Ils sont employés d'une part pour désigner les termes descendus par révélation sur Muhammad et autres que lui, pour la Torah, l'Évangile. En fait, le premier sens en réalité du mot Coran, quand on parle de Coran, c'est l'attribut de parole de Dieu. C'est pour ça que les savants disent le Coran est la parole de Dieu qui n'est pas créée. En résumé, ils disent comme ça. Le Coran, la parole de Dieu qui n'est pas créée. Parce que le mot Coran désigne en premier l'attribut de parole de Dieu. Et il a un autre sens, un vrai sens. Ce n'est pas un sens figuré, attention. C'est un vrai sens. Il désigne l'attribut de parole de Dieu. Il désigne un deuxième sens. Il désigne les expressions révélées au prophète en langue arabe est créée. Donc, ces termes révélés, on dit la parole de Dieu dans le sens, donc, parce que c'est une expression de l'attribut de parole de Dieu. Donc, ils sont employés d'une part pour désigner les termes descendus par révélation sur Muhammad et d'autres que lui, et d'autre part pour désigner la parole propre à l'être de Allah. Exemple de début qui n'est ni lettre, ni son, ni langue arabe, ni aucune autre langue. Si l'on vise par ces noms la parole propre à l'être de Allah, elle est donc exempte de début, elle n'est ni de lettre ni de sang. Ici, on vise par ces noms, Coran, Tawrat, Injil, ici on vise par ces noms les termes révélés, alors certains sont langue arabe, langue hébraïque, syriaque ou araméen, donc on dit plutôt, ces langues ainsi que les autres langues n'existaient pas et Allah les a créées. Elles sont donc devenues existantes, alors qu'Allah Ta'ala existe avant toute chose. Donc ça, c'est une réplique à ceux qui prétendent que Dieu parle avec des sons et des lettres, et ça, c'est une mécréance. Il parle de toute éternité avant même leur existence, avant l'existence des langues. Il est ainsi sans changement après leur existence, et sa parole, qui est son attribut, qui est exempt de début et de fin, est une parole unique. Donc la parole de Dieu est une parole unique. Et tous ces livres descendus sont des expressions qui indiquent cette parole propre à Allah. Donc, il y a cette parole propre à l'être d'Allah, exemple de début et de fin. En outre, il n'est pas nécessaire du fait que l'expression est un début que ce qu'elle indique est un début. Donc, l'expression, elle est créée, comme on écrit Allah, mais elle désigne le créateur qui n'a pas de début. Ne vois-tu pas que si nous écrivions sur un tableau ou un mur Allah et qu'on disait ceci est Allah, cela signifierait-il que les formes de ces lettres tracées sont lettres de Allah? Personne de raisonnable ne l'imaginerait. On en comprend seulement que ces lettres désignent celui qui a la divinité, qui existe, qui est adoré, qui crée toutes choses. Donc, cependant, on explique dans les assemblées de sciences que les termes révélés ne sont pas propres à l'être de Allah, mais qui sont au contraire des créatures de Allah, car ce sont des lettres qui se succèdent les unes aux autres, et ce qui est ainsi a un début à son existence, c'est une créature catégoriquement. Toutefois, ne sont l'œuvre ni d'un ange ni d'un humain. Donc c'est ça. Ce sont des expressions de la parole propre à Allah, qui n'est pas qualifiée d'être arabe, ni hébraïque, ni araméenne. On emploie pour toutes ces significations l'expression la parole de Allah, c'est-à-dire l'attribut de propre à Allah, l'être de Allah, on l'appelle parole de Allah, et les termes révélés qui en sont une expression, on les appelle aussi la parole de Allah. Ce détail a par ailleurs été rapporté par Abu Hanif, Allah l'agré, il fait partie des gens du Salaf, puisqu'il a vécu une partie de des 100 premières années et qu'il est décédé en l'an 150 de l'Hégire. Il a dit, et Allah parle sans organes ni lettres, alors que nous, nous parlons avec des organes et des lettres. Ainsi, il n'en est pas, comme le disent les mushabbiha, que les gens du salaf ne disaient pas que Allah parle d'une parole qui n'est pas de lettres et que ceci n'est qu'une innovation des Ash'arit. Encore un peu habitué de le dire en français. Ash'arit. Parce que bon, c'est un terme arabe. Donc, voilà. Donc, les égarés, donc, eux, ils déclarent égarés, enfin, les Wahhabis ou les Mouchassima, ils déclarent égarés les Ash'ari et les Maturidi. Alors que les Ash'arites, c'est eux qui ont résumé la croyance et c'est l'école enseignée dans les pays musulmans. Dans tous les pays musulmans sunnites, les quatre écoles, ils enseignent cela. Donc voilà, Abu Hanifa, lui, plus ancien que les Ash'arites. Bon, Ash'arites, c'est Abu Hassan al-Ash'ari qui est venu après Abu Hanifa, mais il descend d'un compagnon. Abu Musa al-Ash'ari. La parole attribuée à Abu Hanifa est un fait confirmé. Elle est mentionnée dans l'une de ses 5 lettres. Leur attribution jusqu'à lui a été confirmée en tant que sûr sahih par le Hafiz Murtada Zabidi dans son commentaire du livre Ihya Ulumuddin. D'autre part, les deux emplois du terme Coran relèvent tous deux du sens propre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Car le sens propre est soit du point de vue de la langue, soit du point de vue de la loi de l'islam, soit du point de vue de l'usage. Or, employer le terme Coran pour désigner les termes révélés est un sens propre du point de vue de la loi. Il convient donc que cela se sache. Pour faire un rapprochement d'idées, le mot Allah est une expression indiquant l'être éternel, exempt de début, exempt de fin. Lorsque nous disons « nous adorons Allah », c'est donc cet être qui est visé. Et si on écrivait ce mot que quelqu'un demandait « qu'est-ce que c'est ?», on répondrait « Allah », dans le sens que ces lettres indiquent cet être exempt de début, exempt de fin, et non dans le sens que ces lettres seraient elles-mêmes l'être que nous adorons. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà, donc la parole de Dieu. On dit le Coran est la parole de Dieu qui n'est pas créée. En détaillant, on dit le mot Coran il a deux sens, que ce soit Taurat, l'Injil aussi. Un sens premier, le premier sens, c'est l'attribut de parole de Dieu qui n'est pas des sons ni des lettres, ni une langue arabe ni une autre. Et un deuxième sens qui désigne les termes révélés qui sont dans une langue qui est créée, mais qui ne sont pas l'œuvre d'un humain ni d'un ange, qui sont une expression de l'attribut de parole de Dieu, et dans les deux cas, on dit parole de Dieu. D'accord? Mais l'attribut de parole de Dieu, c'est un seul sens qui est n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Mais le terme parole de Dieu, la parole de Dieu, on peut parler de l'attribut, on peut parler des termes révélés qui sont une expression de l'attribut. Donc, ce n'est pas les Mu'tazila, ils nient l'attribut de parole de Dieu. Ça, c'est de la mécréance. Et ce n'est pas les Mushabbiha qui attribuent à Dieu des sons et des lettres. C'est une mécréance. Donc, on dit aussi, Moussa, il a entendu la parole de Dieu, dans le sens, il a compris, sans que ce soit des sons et des lettres qui rentrent dans une oreille. D'accord? Est-ce que c'est clair? والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات